I know you know, oh, how I feel, how I deal with things like these. I know you know, hope you're at ease. I hope you know what's coming. I know you know, hope you're ready to ride with me. I know you know that you and me can make it through the night.
À ça dans le bac, assis sur le souci. On raille loin de tout, on va jouer, la jouer, la jouer plus aisé. Tu dis qu'on s'en fout, alors viens on s'enfuit. Pour la journée, la vie, on va jouer, la jouer, la jouer plus aisé. Les bonnes vibes sont dans ton...
Le sacré n'est plus à la mode, du moins celui que l'on veut partager. Dans une époque qui prêche la raison et les faits, on se méfie des mots comme croyance, religion ou foi. Mais si je vous disais qu'il est possible de réinvestir le sacré sans dogme, construire ses propres rituels, je le crois, c'est la marque d'une vie à la fois créative et ouverte à la transcendance. Le monde de la musique est pour moi l'un de ces lieux sacrés qui m'accordent avec l'harmonie du monde. Elle m'accompagne à travers les voix et les instruments de quiconque aspire sincèrement à chercher, trouver et à cultiver la beauté du monde. Et il y a de ces prophètes de la musique qui réussissent toujours à m'ancrer dans un sacré qui m'est propre. Paradoxalement, j'en partage un avec le monde entier. Il s'agit de Bob Marley.
Bonjour à tous et bienvenue sur la planète des sages. Cette semaine, on se transporte en Jamaïque après avoir fait un tour au Japon féodal la semaine dernière. Et donc, je suis en compagnie de François Provost. Salut François.
Salut Milly.
Et de Patrick Couture.
Bonjour Milly Brosseau-Gautier. Je suis... content, encore une fois. Je commence tous les épisodes en disant que je suis content.
Oui, mais là, il y a quelque chose de particulier. Il faut le dire, on a dansé là, avant que l'émission commence. Là, c'est du Bob Marley. Is this love that I'm feeling? Moi, ça me mettait dans le beat.
Moi, en plus, j'avais droit à un beau montage photo là, de Bob Marley qui, dans toutes les images classiques qu'on a de Bob Marley.
Mais justement, c'est quoi ces images-là, classiques-là? Parce qu'on commence, on parle de Bob Marley et commençons par c'est quoi ces images classiques-là? Parce que nous, on va essayer de fouiller en profondeur dans ce sage qui est Bob Marley, mais On s'entend que en surface, ça se peut qu'il n'y ait pas l'air si sage que ça. Là.
Oui, je dois avouer que personnellement, c'est ce que je connaissais de Bob Marley avant l'émission. Là. C'est la partie plus surface. C'est Bob Marley, un drapeau de la Jamaïque, un gros joint dans la bouche. Et puis,
ben, c'est quoi? Ça. Des... De la drogue?
Bob?
Oui,
non!
Un peu, oui. Et aussi des ben, la fameuse tuque rastafarienne, les dreadlocks, donc toutes ces images qu'on a de lui, mais c'est tout ce que je connaissais, un peu sa musique, mais honnêtement très peu.
Et toi, Émilie?
Je suis quand même je dirais pas une fan de Bob Marley, parce que je connais pas, mettons, un peu plus maintenant, là, mais je connais pas de faits sur sa vie ou des trucs comme ça, mais ça me fait toujours plaisir d'en écouter. Là. J'ai des moments dans ma vie où je file reggae, puis j'écoute du Bob Marley, entre autres, d'autres groupes aussi, mais je trouve que c'est vraiment de la musique... Pardon?
Il est tellement associé avec le reggae, je veux dire. Ouais, quand on écoute du reggae, on commence par Bob Marley, j'ai l'impression.
Effectivement, puis je trouve que c'est vraiment de la musique feel good. Donc, quand je suis dans un bon mood ou que je suis en train de faire une activité puis j'ai le goût d'être de bonne humeur, souvent c'est genre des tâches là, comme la vaisselle, je peux peinturer. Je trouve que ça te donne de la motivation.
Oui, mais aussi c'est un rapport avec sa musique qui me fait me sentir bien. Là. Des fois, j'écoutais la musique quasiment d'une façon thérapeutique, je me sens stressé, là, j'écoutais Is This Love de Bob Marley et d'autres chansons, puis on dirait que tout d'un coup, là, je me mettais dans une atmosphère vraiment plus joyeuse, un peu plus sereine, qui me rappelait le bonheur de la vie.
J'ai l'impression que Bob Marley serait content qu'on ressente ça, parce que je crois que c'était quand même un de ses buts musicalement parlant, quand il adorait faire de la musique, mais aussi il voulait vraiment transmettre un message là,
Ben c'est ça, c'est au moins dans les images classiques qu'on a de Bob Marley, le message d'amour, de sérénité, il est encore là, avec évidemment les gens qui ont un poster de Bob Marley à côté d'un poster de Pink Floyd puis d'un drapeau du Québec. La fleur de lys est remplacée par une feuille de pote.
C'est un
grand classique, ouais, c'est ça. Mais au moins, il y a encore cette image-là, ce symbole-là. Mais on va vraiment pour... plus aller en profondeur de Bob Marley, il faut d'abord le connaître le connaître lui en tant qu'humain, puis essayer de... C'est toujours intéressant des gens qui ont une espèce de vibe d'être une icône là, un peu plus grand qu'humain, mais de les ramener à leur humanité. Là.
Oui, puis il faut dire qu'il y a quand même un parcours de vie intéressant, Bob Marley.
Ben oui, c'est ça, parce que, premièrement, son nom, c'est pas Bob, mais c'est Robert Nesta Marley, qui est né le 6 février 1945 dans le village rural de Nine Miles en Jamaïque. Lui, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que sa mère, dans le fond, est d'origine afro-caribéenne et son père, lui, est d'origine anglaise. Elle va avoir 18 ans quand elle va donner vie au petit Robert, alors que son père, lui, est d'origine anglaise et avait 59 ans à la naissance de Marley. Donc, rappelons qu'en 1945, la Jamaïque, c'est encore une colonie anglaise. Donc, la présence de Britanniques sur cette île, c'est une réalité de l'époque. Norval Sinclair Marley, qui est le nom du père de Bob Marley, est arrivé comme soldat de l'armée anglaise en Jamaïque à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale avant de devenir contremaître de plantation. C'est là qu'il va rencontrer la mère de Bob Marley qui n'avait que 16 ans et qu'elle travaillait sur la plantation. Donc, on est vraiment dans une autre réalité. Hein? Et donc, Bob Marley, ça va être le seul garçon de son village à avoir à la fois des origines anglaises, évidemment blanches, et jamaïcaines, donc noires. Donc, il va être rejeté par bien des enfants, puis bien des gens, en fait, pendant son enfance, à cause qu'il est une espèce de il n'est pas totalement comme les autres. Évidemment, c'est un leitmotiv assez fréquent dans l'humanité, de quelqu'un qui est un peu divergent, mais tout d'un coup qui rentre pas dans le groupe. Donc Bob Marley va vivre ça un petit peu à cette époque-là. Il va vivre avec sa mère, ses grands-parents sur la ferme familiale de Nine Miles. Il va à peine connaître son père là, qui est toujours parti, qui va quand même offrir un certain soutien financier à la famille jusqu'en 1955, où il va décéder d'une crise cardiaque alors que le jeune Bob Marley n'a que 10 ans. au moins, il y a la musique pour le consoler. Il va apprendre la guitare assez jeune. Il va jouer avec, avec des amis, dont un certain Neville Livingston, qui est un garçon dont le père va ultimement avoir deux enfants avec Cedella Malcolm, qui est le nom de la mère de Marley. Donc, il va devenir une espèce de demi-frère là, pour Bob Marley, puis ils vont jouer de la musique ensemble. La famille élargie va partir pour Trenchtown, qui est une banlieue de Kingston, alors que Marley y a 12 ans. Donc, Kingston, qui est la capitale de la Jamaïque.
Oui, Trenchtown, comme j'ai compris, c'est un endroit, un milieu quand même très pauvre. Là. C'est quelque chose qui s'apparente à ce qu'on peut appeler des bidonvilles. Parfois,
exactement, là. Oui, exactement. Donc, justement, Neville Livingston, dans un documentaire que j'ai écouté, en parlait, mais que c'était vraiment commun pour lui et pour Marley d'arriver à la fin de la journée puis de ne pas avoir mangé à sa faim. Et quand on regarde des images du quartier, on voit vraiment que ça, c'est... Il y a beaucoup de misère, il y a de la pauvreté dans ce quartier-là. Donc, Marley va être là. Mais à Trenchtown, il va vouloir amorcer sérieusement une carrière musicale avec justement Neville Livingston. Donc, et même à 16 ans, qui est quand même assez jeune, va enregistrer une première chanson. Et il va plus tard, et quand même assez jeune, ça c'est assez intéressant, mais on connaît moins cette partie de Bob Marley-là, de quelqu'un qui est vraiment dans la musique de façon sérieuse, qui voulait devenir musicien. Bob Marley n'a jamais voulu être autre chose que musicien. Il voulait jouer de la musique. Il adorait la musique. Et on oublie ce côté-là de la passion, je trouve. La passion pour la musique. Et parce que, ça, comme je le dis, ça va commencer très jeune. Et vers 16 ans, il va déjà avoir une première formation de son band de musique qu'on appelait les Wailers, donc avec Bonnie Wailer, Neville Livingston, avec Junior Braithwaite, Beverly Kelso, Cherry Smith et un autre star de la musique reggae, Peter Tosh, qui vont, avec évidemment, bien sûr, Bob Marley, vont former la première mouture des Wailers.
Et déjà à cette époque-là, il y avait un milieu musical, justement, en Jamaïque important avec, justement, ben, on est dans les années 60, donc toute l'invasion britannique et tout ça. Et je pense, de ce que j'ai compris, de ce qu'on a pu regarder et lire, il y avait une volonté de se réapproprier, de créer quelque chose d'unique, d'avoir une scène musicale propre à la Jamaïque.
Oui, oui, puis Marley est vraiment exactement une manifestation de ça, parce qu'avec les Wailers, ils vont s'inspirer beaucoup du rhythm and blues américain, donc des bands aussi du soul. Ils vont être beaucoup dans les harmonies vocales de ce qu'on pouvait entendre à l'époque, des groupes comme les Platters là, ou les Temptations, mais des groupes de rhythm and blues américains qui vont vouloir beaucoup faire des harmonies, mais avec cette petite couleur jamaïcaine qui, au début, va donner ce qu'on appelle du ska. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, le ska qui est apparu avant le reggae, qui est vraiment un précurseur du reggae, qui va avoir ce petit côté, cette petite guitare sur le contretemps, mais qui est un peu plus rapide. Ce que, oui.
Est-ce qu'on peut avoir un exemple, François?
Tic-tic-tic-tic.
Merci.
mais en tout cas, c'est pas, on va avoir la chance d'écouter tout à l'heure quelque chose qui ressemble un petit peu plus à du ska. Mais donc, qui est vraiment un précurseur de la musique reggae. Et ça va être un style de musique que les Wailers vont embrasser au tout début de leur carrière. C'est un style de musique qui est mélangé avec d'autres formes que ça provient un petit peu plus des rythmes africains ou carabinéens, et ça va vraiment influencer énormément la musique reggae qui va vraiment naître en Jamaïque. Les Wailers vont avoir un premier single qui s'appelle Simmer Down, très bon exemple de ska d'ailleurs, qui va être un hit en Jamaïque. On est en ce moment en 1964, donc c'est à ce moment-là que la carrière des Wailers va être lancée. Ils vont avoir plusieurs hits radio en Jamaïque, et Bob Marley, lui, il n'a même pas encore 20 ans à cette époque-là. Il va, justement autour de sa vingtaine, faire une rencontre des plus marquantes dans sa vie. On parle d'un dénommé Mortimer Plano, qui va être un leader du mouvement Rastafari. Donc, c'est un mouvement social, religieux assez fascinant qu'on va aborder plus tard parce que ça va vraiment énormément influencer la carrière de Bob Marley, qui va de plus en plus embrasser cette religion ou ce mode de vie-là Rasta dans sa musique. Mais malgré tout, Marley a quand même la difficulté à vivre de la vie de sa musique. Il va donc déménager aux États-Unis en 1966, rejoindre sa mère qui était déjà là, et il va partir avec sa femme, une nouvelle dame dans sa vie qu'il va marier, qui s'appelle Rita Marley, qui va aussi entretenir sa foi pour le Rastafari. Il va retourner en Jamaïque pour ensuite, avec les Wailers, démarrer leur propre studio de musique. Et ils vont devenir de plus en plus populaires au pays. Donc, de 1968 à 1974, ils vont produire plusieurs albums très populaires. En 1974, il y a Peter Tosh et Livingston qui vont quitter les Wailers pour commencer des carrières solo. Donc, ça va vraiment donner une formule plus centrée sur Bob Marley qui va se dénommer Bob Marley and the Wailers.
Et à ce moment-là, on entre vraiment dans la partie reggae de leur musique. Ils sont vraiment en train de développer ce style-là qui émerge, en fait. Donc, c'est les groupes pionniers du reggae.
Exactement. On pourrait pas dire que c'est eux les inventeurs du reggae, mais ils font partie des groupes pionniers du style et certainement le groupe qui est le plus fait connaître le reggae partout sur la planète. Là. Parce que, justement, à ces époques-là, dans les années 70, au début des années 70, les Wailers deviennent très, très populaires en Jamaïque. Bob Marley devient vraiment une réelle star dans son pays d'origine. Un bon exemple de ça, c'est en 76, la Jamaïque, qui à l'époque vit de nombreux épisodes de violence entre des groupes politiques, donc associés plus à la gauche ou à la droite politique. Un se rattachant plus à la droite américaine et l'autre plus au socialisme qui a des affinités avec les régimes russes, les régimes de Fidel Castro. Bob Marley, lui, est apolitique, si on veut. Il est apolitique. Le Pat, je vois que tu me regardes avec des gros yeux parce que il est politique à sa façon. Il n'est pas politiquement engagé pour ces groupes-là politiques-là.
Ouais, en fait, j'aime quand même l'expression apolitique. C'est une notion que j'adore, moi, que j'ai rencontrée à plusieurs moments, mais la distinction entre le politique et la politique, quand on parle du politique en tant que tel, on est dans... quand on parle de la politique, d'abord, c'est quelque chose qui est plus relatif au pouvoir, la gouvernance, obtenir du pouvoir, maintenir, structurer. Par exemple, Le Prince de Machiavel est un ouvrage qui traite de la politique, la question du régime, justement, est-ce qu'on va devenir socialiste, capitaliste, la partisanerie, tout ça, alors que le politique, c'est plus ce qui se rattache à l'espace civique, au vivre ensemble.
Comment qu'on s'organise.
Exactement, et puis je pense que le politique a nécessairement une dimension un peu qui outrepasse la question de la politique, les questions de la politique, et c'est clairement là-dedans que Bob Marley voulait s'inscrire, puis on le voit avec l'exemple de ce concert-là, où il voulait pas justement être d'un côté ou de l'autre pour un parti.
Oui, ben le concert que tu mentionnes, je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est un concert gratuit que Bob Marley, dans le fond, a voulu offrir à toute la population de la Jamaïque parce qu'en raison des élections, des tensions politiques qu'il y avait, il a voulu offrir un espace de paix pour la population de la Jamaïque et un concert gratuit, là.
Oui, en fait, le concert s'appelait Smile oui, Jamaica, puis c'est un concert que lui, il voulait... comme il y avait beaucoup de tensions entre les deux groupes politiques... en Jamaïque, il a voulu créer ce concert-là pour unir la Jamaïque qui était divisée à ce moment-là, mais c'était pas dans une volonté politique à la base, c'était pas en voulant s'associer à un parti ou à l'autre, mais malheureusement, c'est un concert qui a été instrumentalisé un peu par le parti qui était au pouvoir à ce moment-là, parce qu'en fait, ils ont décidé de déclarer des élections juste après le concert. Donc,
l'annonce du concert. Ouais, dans le fond, ils ont annoncé le concert, ils ont déclaré les élections et les élections allaient être après le concert.
Ouais, quelques jours après,
Ouais, c'est ça. Donc, ça fait que Bob Marley, tout d'un coup, il était pas content de ça, mais tout d'un coup, on l'utilisait pour comme s'il était associé à un des groupes politiques. Et c'est ce qu'on pense qui va mener, finalement, la veille du spectacle, à une tentative d'assassinat. Chez lui, Bob Marley avec quelques personnes de son entourage, il va y avoir quelqu'un qui va arriver avec un fusil, qui va tirer sur Bob Marley, qui va être blessé à plusieurs endroits. Heureusement, ça ne mettra pas sa vie en péril. Ça, en fait, ça ne tuera pas personne, cet attentat-là, malgré que plusieurs personnes sont sorties blessées. Mais finalement, Bob Marley va quand même donner son concert, même malgré qu'il avait très, très peur pour sa vie à ce moment-là, parce que là, c'est un concert qui réunit des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et qui est un concert très beau, finalement, parce qu'il va même le faire de façon très improvisée, mais il va arriver sur scène, va demander aux deux figures politiques des partis de gauche et de droite
Désolé François, oui. Ça vient vraiment plus tard, c'est ça, plus dans tard, la carrière ça. De Bob Marley. C'est pas le... On est... Non, en fait, parce que tu parles en ce moment du concert One Love.
Oui, je me mêle du concert.
Son retour, parce que ben, je peux te laisser continuer.
Je me suis mêlé du concert.
Désolé.
Non, c'est bien, il faut bien remettre les faits en place. Donc, mais après cet assassinat-là, bon, il va pas donner de concert ou qu'il va unir des figures politiques, ça plus tard, mais il va repartir en Angleterre, parce qu'il craint pour sa vie à ce moment-là. Tout d'un coup, il va vraiment vouloir développer aussi le groupe des Wailers sur la scène internationale. Donc, il va enregistrer des choses en Angleterre, essayer de commercialiser un petit peu plus, mais pas nécessairement commercialiser, mais de rendre la musique des Wailers plus accessible à tout le monde à travers la planète. Et ça va fonctionner parce que vraiment, Marley, de plus en plus à courant de la deuxième moitié des années 70, va vraiment développer une carrière à l'international. Il va faire plusieurs tours, plusieurs concerts à travers le monde, et il va donner des albums vraiment, vraiment classiques. On parle de Exodus, Survival, Uprising, et en même temps qu'il va devenir un peu plus... Il va voyager à travers le monde. Il va aussi développer un intérêt assez important pour la scène politique et sociale en Afrique, qui, on va le voir tout à l'heure, mais qui va être relié énormément à sa pensée Rastafari. Mais malheureusement, on est dans les années, à la fin des années 70. En 1977, Bob Marley va apprendre qu'il est atteint de mélanome, donc un cancer de la peau qui a commencé au niveau de l'orteil, alors qu'il est au sommet de sa popularité. Donc, il va, malgré ses tournées un peu partout en Europe, aux États-Unis, le cancer, il va le constater, le cancer va se généraliser, sa santé va devenir très, très précaire. Au début des années 80, c'est une question de temps avant que Marley nous quitte. Et finalement, à 36 ans, il va mourir le 11 mai 1981. Donc, 36 ans, très jeune pour Bob Marley qui... somme toute, va quand même avoir réussi à influencer énormément le monde et qui va vraiment donner le plus grand des élans possibles à ce qu'on appelle le mouvement Rastafari. Donc, qu'est-ce que le mouvement Rastafari? Parce que ce qui est important, c'est important de le savoir parce que sans connaître quelques bases sur ce mouvement-là, c'est difficile de connaître, on pourrait dire... plusieurs valeurs, plusieurs choses que Bob Marley veut transmettre avec sa musique. Donc, on va l'entendre dans une entrevue radio en 1973. Il se fait demander « What is the point of your music? » Donc, voyez l'extrait suivant.
Well, the point is the fulfillment of revelation. And I man don't say it's my work for going to Babylon, really. Do what I do, but I find myself doing it and I can't stop it because greater power than the power I know of myself make I do it. And then I find no harm come to I, so I do it. But the real thing is that his imperial majesty Emperor Selassie I is earth rightful ruler, and I man is a citizen of the earth, and Zion is Ethiopia, you know.
Alors, on entendait Bob Marley nous dire...
On a besoin d'une traduction,
ouais, une petite traduction. Alors, le but, c'est d'accomplir la révélation. Et je sais que c'est ma job d'aller dans Babylone pour faire ce que je fais vraiment. Mais je me rends compte que je le fais quand même et que je ne peux pas m'arrêter, comme si ça venait d'une puissance plus grande que moi. Elle me laisse faire et il ne m'arrive rien de mal, alors je continue. Mais la vérité, c'est que Son Altesse impériale Haïlé Selassie I est le véritable souverain de la Terre et je suis un citoyen de la Terre. Zion, c'est l'Éthiopie. Tu sais?
Il était très important. Pendant l'extrait, je voulais juste dire que je suis allé chercher l'information factuelle, mais le concert One Love est survenu au retour de Marley en Jamaïque. Donc, c'était le 22 avril 1978.
Et c'est là que ce que tu allais dire, là, c'est là où les deux leaders des partis, Bob Marley, c'était supposément improvisé, a demandé à chacun des leaders de venir sur scène, de se serrer la main, lui étant dessus. Il y a quelque chose de très cérémonial. Marley a l'air en transe aussi. Il y a beaucoup d'images là, de ce concert-là, c'est fabuleux comme moment et c'est un moment d'union. Là,
et de... bien justement, l'union, le rassemblement, c'est une des valeurs du mouvement Rastafari.
Oui, mais malheureusement, je veux pas casser le party, mais ce concert One Love où les deux dirigeants se sont serrés les mains n'a rien changé à la situation politique de la Jamaïque. Ouais, c'est quand même le préciser parce que c'est important, là, les violences et, ont continué quand même assez longtemps après cet événement, malgré tout.
Malgré tout.
Malgré les belles valeurs de Bob Marley.
Donc, pour revenir à l'extrait, parce que c'est quelqu'un... premièrement, Marley a un très grand accent jamaïcain. Il y a une espèce de créole aussi jamaïcain qui mélange une espèce de slang de cet endroit-là avec l'anglais qu'on connaît. Donc, c'est un peu normal qu'on comprenne pas tout. Mais il y a plusieurs mots qui font carrément directement référence au mouvement Rastafari ou Rastafari. Là, moi, je le dis en anglais, là, Rastafari, mais on pourrait dire Rastafari. On parle des mots comme Jah, qui dans le fond, parce que là, on s'est amusé dans le cadre de l'émission à essayer de découvrir ce mouvement-là, Rastafari. On n'est pas des connaisseurs, c'est un mouvement qui est très, très complexe, puis on se surprend, je pense, à le voir en explorant ce mouvement-là. Mais on va quand même essayer de décortiquer la fameuse question: quel est le point de la musique de Bob Marley? On va essayer de décortiquer sa réponse. Donc, c'est un mouvement qui quand on regarde les certains mots utilisés, il y a Jah, qui dans le fond vient de Jéhovah. Donc, c'est une latinisation. On va pogner Yahvé, puis on va le mettre en latin. Voilà. Fait que c'est le nom Yahvé, donc un nom hébraïque donné à Dieu qui va être mis en latin, qui va donner Jéhovah, et le raccourcissement, ça donne Jah. Donc, quand les Rastafari utilisent le terme Jah, ça signifie, dans le fond, Dieu, ou Yahvé, Jéhovah. Et Haïlé Sélassié, ça, c'est une figure historique très, très intéressante du 20e siècle. C'est un empereur d'Éthiopie qui, lui, dans le mouvement Rastafari, est vu comme une incarnation, une réincarnation de Dieu sur Terre ou de Jésus-Christ. Parce que le mouvement Rastafari, c'est un mouvement social, mais très religieux, qui est très, très apparenté avec le christianisme, qui est très, très, très ancré dans les inspirations judéo-chrétiennes. Mais Haïlé Sélassié est une espèce de réincarnation de Dieu, de Jésus, selon les Rastafari. Donc c'est Haïlé Sélassié, pour comprendre pourquoi, dans le fond, on le verrait comme une réincarnation. Ben, c'est un empereur d'Éthiopie. Déjà, l'Éthiopie, c'est le seul pays en Afrique qui n'a pas été colonisé par les Européens en Europe. Donc, il y avait déjà un côté très symbolique au niveau de la politique qui fait que l'Empire d'Éthiopie était vu qui dégageait une forte puissance.
Oui, ça nous fait mieux comprendre aussi Zion, c'est l'Éthiopie, là. Zion, justement, qui est une terre importante dans la Bible, là. c'est la terre promise, Zion, en tout cas, c'est...
Exactement, paradis sur terre aussi, ouais. Mais on pourrait y retourner parce que le temps nous suit de près, donc je pense qu'on est rendu à une pause publicitaire, Amélie?
Oui, effectivement, donc on se retrouve après la pause où on entendra une chanson peut-être moins connue de Bob Marley qui s'appelle Cheer Up. Donc, on écoute quelques publicités et on vous revient après la pause.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie, j'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie, j'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Capa, c'est capté par son receveur. Touché. Rouge et or.
Ce dimanche, 14h, le Rouge et Or affronte les Carabins de Montréal pour l'optation du premier rang du RSEQ. Les hommes de Glenn Constantin tenteront de venger leur défaite du 18 septembre dernier. Ne manquez pas l'avant-match dès 13h30 en compagnie de Pascal Loubier et Sébastien Barbeau. Laval contre Montréal, c'est ce dimanche 14h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Chanson Cheer Up de Bob Marley and the Wailers qui est parue sur l'album The Best of the Wailers en 71. Mais d'ailleurs, même si le titre pourrait porter à confusion, il ne s'agit pas d'un Best of, mais bien d'un album original, le deuxième album studio de Bob et son band.
Donc, on voit que c'est plus vieux du Bob Marley qu'on connaît généralement. Déjà parce qu'on est plus dans le ska. Hein?
Mm-hmm.
Donc, on en parlait tout à l'heure, le ska, donc, qui était un style de musique qui est arrivé avant un peu le reggae. Un peu plus vite, hein? Puis un peu moins...
C'est plus groovy, c'est plus la musique de danse, de party. Contrairement au reggae qui, comme je pense dans un documentaire, il disait que c'est plus le reggae, c'est plus une musique de réflexion, de paroles, de messages. Contrairement au ska qui est comme plus...
Ah, mais moi, ça me fait danser, le reggae, je te le dis.
Ben oui,
danser un peu au ralenti, on dirait, là.
Ouais.
Mais ça me fait danser.
Mais c'est quand même dans le... par rapport au propos dans la musique aussi, peut-être.
Mais justement, il semblait dire que le reggae s'est apparu pour rendre plus le propos rastafarien. C'était un peu ça le but. Je me souviens plus, dans un des documentaires là, qu'on a écouté en préparation de l'émission, il y a un des membres du groupe qui disait cela. Il disait... avec le ska, on pouvait pas justement faire une musique spirituelle comme on le cherchait.
Oui, mais finalement, Marley, c'est ça qui, avec le reggae, puis avec son amour, en fait, ça devenait de plus en plus. En fait, la place du Rastafari qui va prendre de plus en plus place dans la vie de Bob Marley, bien, ça va faire que justement sa musique va devenir beaucoup plus sacrée, plus spirituelle. Et donc, ça, on revient à ce qu'on parlait de quels sont les c'est quoi le Rastafari, parce que comme l'extrait de Marley nous le montrait, on a besoin de certains concepts clés pour comprendre finalement c'était quoi le but de sa musique au final, parce que c'est intégré à sa pratique du Rastafari. Donc, on parlait justement de Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, qui, pour pourquoi qui est vu comme étant une réincarnation de Dieu, de Jésus-Christ, c'est que, selon la tradition, ça serait un descendant direct du roi Salomon et de la reine Saba, donc des figures bibliques, des figures qu'on retrouve dans la Bible, et Bible qu'on retrouve d'ailleurs dans le studio en ce moment. Pas de contact, t'as amené ta Bible.
Oui, puis précisons, hein, c'est des figures de l'Ancien Testament.
Exact. Et donc, cette tradition-là que Haïlé Sélassié serait d'un descendant direct de ces figures-là, ben ça enracine ce personnage-là dans justement une génétique de personnages très forts, très importants au niveau de la civilisation judéo-chrétienne. Et en plus, comme je disais, Haïlé Sélassié va être le souverain du seul pays d'Afrique non colonisé par les Européens, malgré une tentative de conquête par les Italiens en 1936, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on le savait, puisque Mussolini avait des petites motivations impérialistes là, à ce moment-là. Mais finalement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ben, l'Éthiopie reste l'Éthiopie. Et Haïlé Sélassié est vu vraiment comme un prophète, une incarnation de Dja, dont la mission était vraiment de libérer le peuple noir. Parce que dans le mouvement Rastafari, il y a cet élément-là qu'on appelle afrocentrique, mais il y a tout ce mouvement religieux qui sert également des causes sociales, d'essayer de libération des gens, des peuples de l'Afrique. Comme on le disait, l'Éthiopie s'est vue comme étant le Zion, donc c'est un pays que les Africains voudraient, dans le mouvement Rastafari, on dit que les Africains et les descendants d'esclaves noirs provenant d'Afrique, il y a eu un mouvement de « on retourne dans le Zion », dans cet endroit sacré qui est l'Éthiopie, dans le but de refaire le paradis sur Terre. Et dans le fond, quand on parle de Haïlé Sélassié, pourquoi j'en parle, pourquoi c'est une figure si importante, c'est que ça vient carrément, la tradition vient de lui dans sa figure contemporaine, Rastafari. Ras, quand on regarde l'étymologie, ça signifie prince, ça signifie roi ou leader. Et Tafari, qui était le nom de Haïlé Sélassié avant qu'il prenne ce titre-là, quand il est devenu empereur. Donc, on peut pas parler du mouvement Rastafari sans parler de Haïlé Sélassié.
Et dans cette aussi dynamique-là de oppression, sortir de l'oppression, ben, il y a quelque chose d'autre qui est très important. Dans la parole tout à l'heure de Bob Marley et dans le mouvement Rastafari au complet, c'est la figure de Babylone.
Oui, Babylone System, des fois qu'on entend ensemble.
Puis Babylone qui vient aussi faire un lien avec Zion, là, dépendamment de comment on veut le prononcer. Mais Babylone, on le sait, c'est un symbole biblique super important. C'est une ville historique, mais c'est une ville biblique également qui vient symboliser déjà dès l'Ancien Testament l'orgueil, parce que c'est là où on va construire la tour de Babel. Mais surtout qui vient représenter l'oppression du peuple juif qui doit fuir. On l'entend entre autres dans le psaume 137. Oui, c'est pour ça que j'ai emmené ma Bible. Donc les psaumes, hein, on sait, sont des textes faits des espèces de prières poétiques.
On le sait,
ben, ceux qui sont déjà allés à la messe, là, des moments où le curé fait comme pitcher un psaume, puis c'est toujours un peu surprenant. Mais enfin, le psaume qui commence par « Là-bas, au bord du fleuve de Babylone, nous restions assis tous épleurés en passant à Sion. » Au sol du voisinage, nous avions pendu nos lyres. Et ça continue. Et là, vous reconnaissez, n'est-ce pas?
Les paroles de la chanson The Rivers of Babylon, la chanson disco par excellence.
Vu que j'ai dû faire avec ma voix le son du reggae, Milly, tu vas devoir chanter un extrait de cette chanson-là.
Ouais, non, je
pense que c'est pas. C'est ça?
Ouais, oui, exactement. Mais c'est le fameux groupe Boney M.
Oui, mais attention, justement, c'est ça qui est super intéressant. J'ai fait des découvertes cette semaine. Oui, ça donne effectivement les paroles de Rivers of Babylon, mais qui est à la base une chanson, pas reggae, mais une chanson jamaïcaine d'un groupe. Donc, on parlait de cette musique jamaïcaine qui a émergé à la fin des années 60. Là, où justement on avait vraiment un mouvement qui essaie de créer quelque chose qui était propre à la Jamaïque, mais de Melodians on fait Rivers of Babylon. C'est vraiment une chanson qui était presque traditionnelle si on veut, et elle a été popularisée par Boney M par la suite dans sa version disco, mais Marley aussi va utiliser la figure de Babylone à quelques endroits. Là, on l'entendait en parler, mais il y a même une chanson qui s'appelle Babylon System, où Babylon System, on le qualifie de vampire qui qui suce le sang des enfants là, de sucking the children day by day. Donc il y a vraiment une idée d'enlever la liberté. Donc toute cette image là, c'est important. Puis c'est justement en réutilisant le psaume 137, il y a vraiment une volonté de renverser ça, parce que le psaume finit de façon assez violente là. C'est il faut que les gens, il y a la loi du talion là-dedans, là. Les gens qui nous ont oppressés, il faut qu'ils payent. Mais enfin, tout ça pour dire que cette imagerie-là est au cœur même du mouvement Rastafari. Mmh. Je trouvais ça passionnant d'avoir... Mmh.
Quoique le côté d'utiliser la force pour contrer Babylone, c'est quelque chose que dans le mouvement Rastafari, ou du moins dans la musique de Bob Marley, qui ne sera pas vraiment véhiculé, parce qu'on sait qu'avec Bob Marley, c'est un apôtre de la paix, malgré qu'il n'est pas... il est pas naïf concernant l'oppression, évidemment, comme tu le parlais. Il y a la chanson Babylon System, la chanson War, qui est d'ailleurs basée sur un discours d'Haïlé Sélassié qui avait donné ça à la Société des Nations. Mais c'est tout le temps dans un rapport de tant qu'il y aura de l'oppression, tant qu'il y aura de la discorde entre les êtres humains, il va y avoir de la guerre. Donc, malgré que le mouvement Rastafari et les Bob Marley ne veut pas dire il faut maintenant utiliser des moyens forts pour éviter la guerre, ben, il y a au moins une lucidité par rapport à l'existence de l'oppression, l'existence de la guerre. Et justement, comme tu disais, Pat, Babylon, ça représente tout ça, là, tous les systèmes d'oppression. Parfois, ça incarne la police dans certaines chansons du reggae, mais c'est vraiment tout un lexique très, très intéressant. Et qui est du Rastafari contemporain. Puis une chose qui est intéressante, c'est que tout ça, le Rastafari est vraiment arrivé plus dans les années 30 en Jamaïque, mais les racines de tout ce mouvement-là sont vraiment très, 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 très vieilles historiquement parlant. Donc il y a plein de choses du mouvement Rastafari des années 30 qui a vraiment été d'une façon de sortir de la Jamaïque et d'une façon un peu plus organisée avec la figure d'Haïlé Sélassié, mais il y avait vraiment des racines très profondes au mouvement Rastafari à l'époque. Je pense que juste l'utilisation des dreadlocks, que c'était avant le Rastafari des années 30. Puis toi, Émilie, c'était un des côtés qui t'intéressait, là, ces cheveux-là classiques des Rastas.
Ben oui, en fait, on en entend beaucoup parler parce que c'est quand même devenu une certaine mode ou un certain style. Mais à la base, l'origine exacte de ces fameuses dreads, c'est pas nécessairement très clair. Il y a des mentions de personnes qui sont coiffées comme ça chez les hindous ou chez les égyptiens. Donc, on parle de plus de 2500 ans avant notre ère. Donc, dans le rastafarisme, il y a plusieurs... croyance au sujet des locks. Donc, parce que dans le fond, l'expression dreadlocks, elle était à la base, c'était un peu dénigrant envers cette coiffure-là.
Okay.
Et finalement, ça a été comme réapproprié par les gens qui les portent. Et maintenant, c'est un terme qui est aussi employé. Mais c'est surtout c'est un symbole assez personnel, dans le sens qu'il est interprété de façon différente par rapport chez les Rastafari. Mais ça peut être un symbole de détachement des possessions matérielles ou de non-conformité, par exemple en opposition au fameux Babylone qui est comme le pouvoir. Mais il y a aussi des gens qui croient que plus elles sont longues, plus on est proche de Dieu. Et également que le fait que nos cheveux soient comme noués de cette façon-là, ça empêche notre énergie de s'échapper de notre tête. Donc, c'est un signe de force intérieure.
Okay.
Donc, ça a vraiment une signification importante. Mais principalement, c'est aussi un processus naturel de ce type de cheveux-là. Donc, de façon générale, les cheveux, par exemple... des Jamaïcains, quand ils poussent, si tu les laisses pousser comme ça, naturellement, ils vont former des locks. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que Bob Marley, dans sa jeunesse, il a comme les cheveux courts, puis là, il fait la rencontre du Rastafari, finalement, il va se laisser pousser les cheveux pour avoir la coiffure qu'on connaît, qui est vraiment emblématique de Bob Marley aujourd'hui, je dirais.
Oui, et des Rastas en général.
Oui. Exactement.
Qui adhèrent au Rastafari.
Oui, oui. Donc, c'est ça. Il y en a qui ont vraiment des très, très, très longs cheveux. Donc, parce que justement, comme je disais, ça peut être un signe d'être dédié à Ja, finalement. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une importance. Et je me rappelle Bob Marley dans une entrevue à un moment donné, il dit « Mes cheveux comme ça, c'est vraiment qui je suis. »
C'est mon identité, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Et c'est ça, c'est l'élément de « c'est naturel », c'est un élément important du Rastafari, parce qu'il y a vraiment une importance à ce qui est naturel. Et parfois, même, ça fait en sorte que le mouvement, même, il y a des choses qu'on peut vraiment contester, comme l'utilisation de la marijuana. C'est une plante, c'est quelque chose de naturel. Donc, on essaye de on peut consommer du pot parce que c'est une plante que Jah a mis pour nous. Donc, ça, c'est un des éléments de controverse du Rastafari.
Oui, mais dans la pensée rastafarienne, il faut dire, c'est pas... il le mentionnait à quelques endroits...
c'est pas récréatif.
C'est ça, exactement. Là, c'est quelque chose qui est spirituel. Comme il consomme pas du weed pour se péter la face.
Non, c'est ça. Quelque chose de sacré dans tout ça. Et aussi quelque chose de naturel, un autre élément qu'on pourrait dire controversé du Rastafari, mais c'est le rôle des genres, parce qu'après, il y a quelque chose de, comme si c'était naturel que l'homme qu'il soit un peu plus dominant au sein du Rastafari. C'est un mouvement un peu plus patriarcal. Et avec ce qui se passe en Jamaïque aussi, qui est encore actuellement un pays dont l'homosexualité est illégale. Donc, c'est toute cette tendance-là à penser qu'il y a des choses qui sont pas naturelles, donc on devrait les contraindre. C'est un autre élément qu'on pourrait dire très controversé.
Qui est critiqué à l'intérieur même de la musique reggae dans une chanson de trio, groupe français, la chanson Brian Williamson, une figure jamaïcaine homosexuelle, et puis Brian Williamson, donc c'est quelqu'un qui a été assassiné probablement à cause de son homosexualité en Jamaïque. Mm-hmm. Et il y a des paroles, là, alors Marley nous aurait menti. Donc, c'est cette critique-là de oui, OK, il y avait un message d'amour général, universel, mais il y a quand même certains aspects sur lesquels on peut poser un bémol, disons-le comme ça.
Mais Marley lui-même n'a jamais utilisé sa musique pour parler quoi que ce soit de l'homophobie, quoi que ce soit. Donc, ça laisse place à l'interprétation. Et c'est pas ces éléments-là du Rastafari dans la musique de Marley qu'on va vraiment plus justement s'inspirer aujourd'hui, parce que on le sait, Bob Marley est devenu un idole sur la planète Terre, c'est devenu un symbole, il y a un énorme culte à Bob Marley, et d'ailleurs de son vivant, ça commençait déjà à se faire, ce fameux culte-là, et là-dessus on a un extrait qui parle justement du rapport de la célébrité de Bob Marley, le rapport de Bob Marley avec la célébrité. On l'écoute tout de suite.
I hang a fame by not being famous.
Come on, you know you're a famous man.
No, I mean, you know, not to me.
No?
Not famous to me.
Donc, un court extrait, mais qui est quand même aussi évocateur de comment Bob Marley était en entrevue. C'était un gars assez gêné, introverti, puis il n'aimait pas particulièrement ça, être interviewé par des journalistes, puis il avait des réponses assez simples, souvent. Là.
Ben aussi, je pense que c'est quelqu'un d'assez humble, d'assez modeste, même si il était visiblement une star.
Ah oui?
Dans l'entrevue, il est comme oh, pas tant.
Mais c'est intéressant comment qu'il voit ça. I'm not famous, not to me. Genre son rapport à lui, moi, je me sens pas je me sens pas célèbre. Mm-hmm. Donc il y a quand même une question intéressante sur la célébrité. Si on n'endosse pas, on dit qu'on n'est pas célèbre, mais qu'on se voit comme un humain parmi tant d'autres, malgré que des gens pourraient nous voir comme étant un peu plus célèbre que d'autres. Mais si nous, on se considère pas célèbre, ben on garde justement cette humilité-là. On garde cette façon de nous voir de façon très humaine, sans se voir comme étant un idole ou une star, comme finalement Marley va devenir là, après sa mort et encore aujourd'hui. T'sais, Bob Marley, c'est un des visages qu'on voit partout dans le monde, là, c'est une figure emblématique. Puis on a parlé tout à l'heure, Patrick, mais il y a même quelque chose de kitsch qui vient avec ça, là.
Oui, ça a été kitschifié comme figure, comme culture même, parce que justement, c'est le Rastafari en tout ça, ben il y a des éléments qui pour eux sont culturels, la fameuse, ben le tuque est peut-être pas le bon terme, là. Le chapeau, ben, certains chapeaux, là, il y a aussi celui-là très haut là, dans lequel on met les dreads.
On connaît pas vraiment cette partie-là de la culture Rastafari, mais on voit
ça, on n'a pas les bons termes, voyez-vous, c'est une bonne preuve, parce que tout ça, on le voit malade. Tous les jours, le nombre de personnes que je connais qui ont ces éléments-là chez eux, à la maison, qui vont les porter parfois sans nécessairement savoir, sans connaître, sans se rattacher à l'origine de tout ça. Ça devient un peu le message est grandement. Le message est déjà simple de Bob Marley, on s'entend, là. C'est un message d'amour et tout, mais il est d'autant plus simplifié et on prend des éléments superficiels de tout ça, donc l'aspect physique de la chose, et on se l'approprie, mais du moins certaines personnes se l'approprient. Donc c'est vraiment au sens même de kitschifier quelque chose, là, au sens d'en enlever la profondeur.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de groupes, je pense, qui se réapproprient certaines une imagerie finalement de Bob Marley, notamment tous les gens qui militent pour la légalisation de la marijuana. Donc, tu sais, même au Québec, il y a quelques années, c'était pas légal, on le sait. Mm-hmm. Puis il y a quand même beaucoup d'événements où il y avait des c'est par exemple le fameux 420. Si vous, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'anniversaire du pot. C'est la journée où tout le monde fume tous ensemble. Exactement.
Ja a donné naissance au pot.
Non, mais c'est par exemple à Montréal, je vais parler de cette expérience puisque c'est de là que je viens. Il y a un gros rassemblement à chaque année sur le Mont-Royal à 80, où tout le monde va fumer un bat ensemble. Et il y a des centaines de personnes qui viennent là. Et à ce moment-là, on voit plein des gens qui ont des T-shirts de Bob Marley, des drapeaux avec sa face, des bracelets d'amitié, là, rouge, jaune, vert, noir, les couleurs là, du Rastafari.
Ouais, c'est ça.
Il y a vraiment comme une réappropriation de cette image-là, je trouve, pour d'autres motifs, principalement le weed. Là, c'est vraiment comme... je trouve que c'est un peu dénaturé, finalement, le propos de Bob Marley qui chante pas « Smoke weed every day » comme d'autres artistes.
Ah ouais, c'est ça. Non, le rapport à la marijuana est très accessoire là, chez Bob Marley. Lui, il le fait pour des fins, on le parlait, rituelles. Là. Ça fait partie de la spiritualité Rastafari, mais son message en tant que tel, comme tu disais, ce n'est pas un message de... je pense que peut-être qu'il l'a mentionné parce que tu sais c'est comme une lutte contre Babylone qui veut criminaliser la marijuana, mais ça reste que c'est pas ce qu'on retient principalement lorsqu'on veut s'intéresser à justement comme nous à la sagesse de Bob Marley, parce que ce qu'on voit beaucoup, puis au moins c'est une partie qu'on se souvient du message de Bob Marley, mais c'est des messages d'amour, c'est des messages de justice, c'est des messages de paix. Donc ça, c'est des éléments qui malgré tout, font encore que Marley est tellement associé étroitement à ces messages-là, il devient une espèce d'iconographie de ces valeurs-là.
Oui, ça, c'est effectivement, des fois, faut voir au-delà. Tu sais, tout à l'heure, Shimili était intervenu sur le spectacle One Love où il n'y a pas eu de conséquences directes au fait que les deux chefs de parti se sont serrés la main. Mais on peut quand même parler de conséquences symboliques.
Ouais.
Pour ça, il faut avoir une certaine foi. Mais mettons, moi, je fais partie de ces gens qui ont cette foi, qui croient fermement que si on réussit à insuffler dans la culture ce genre de symbolique, ben ils finissent par avoir des conséquences à long terme sur notre façon d'intervenir. C'est là où tout à l'heure je parlais de politique au sens d'interaction, de vivre ensemble. Alors, on peut quand même penser que le fait que l'iconographie de Bob Marley est entrée dans la culture populaire, ben ça l'emmène des résultats de paix et d'amour, mais qui sont pas quantifiables. Là. Ce serait impossible de faire des statistiques là-dessus. Mais quand même, on remarque que, bon, quand on écoute la musique de Bob Marley, quand on s'approprie son image dans certains moments importants, quelque chose presque de l'ordre du rituel, on va avoir un moment où la paix va être mise de l'avant, mais on va mettre une chanson de Bob Marley.
Oui.
Et ça, c'est puissant quand même. C'est un moyen que les humains ont de s'entendre à travers une image qu'ils vont tous accepter, si on veut.
Ouais, puis je pense que c'est aussi une musique qui rejoint beaucoup de gens et qui, à travers le monde, beaucoup, beaucoup de gens connaissent Bob Marley. Puis quand tu fais jouer une tune de Bob Marley, que tu sois dans n'importe quel pays, les gens, de manière générale, la connaissent un peu. Ils savent c'est quoi l'ont déjà entendu. T'sais, tout le monde a déjà entendu du Bob Marley. Ah oui. Comme ça, ça
la voix est reconnaissable parmi mille.
En plus, je pense que ça crée quand même un peu cette idée que Bob Marley avait d'unité, finalement, de comme si on se rassemble et qu'on écoute cette chanson-là, on a beau venir de n'importe où dans le monde, on se rejoint par, mettons, la connaissance ou même l'amour de cette chanson.
Ah oui, j'écoute un documentaire que je vous conseille à la maison qui s'appelle Marley et qui, justement, on voit d'ailleurs des images captées de partout à travers le monde dans des mouvements politiques, sociaux, les luttes pour la paix. Bob Marley est toujours présent. Et c'est vraiment partie de son héritage de Bob Marley qui est vraiment grandiose, vraiment, quand on y parle et qu'on y pense. Et aujourd'hui, on ne fait qu'effleurer le sujet. Mais après tout, ce que je trouve c'est intéressant aussi de Bob Marley, c'est que ça ne sert pas non plus... ça sent pas beaucoup, ah c'est tellement beau, de chercher trop loin, puisque les messages sont assez simples. On veut la paix, on veut l'amour, et on veut la musique, le tout célébré en musique. C'est pour ça qu'on vous laisse sur cette magnifique chanson de Bob Marley, Redemption Song.
Oui, et on peut annoncer avant de terminer l'épisode que la semaine prochaine, il n'y aura pas de Planète des Sages, donc ça va être un bon moment. Exactement, pour nous réécouter sur Spotify, peut-être, nos épisodes passés, pour aller lire notre page Facebook. Et on vous revient en force après la semaine de lecture universitaire.
Donc, on écoute Redemption Song. Restez à l'écoute de Shiz 94.3 et à la semaine prochaine.
L'autre d'après.
Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.
Vous écoutez Shiz 94.3 FM à Québec.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est là-bas.
Le vendredi 22 octobre, vos remparts sont de retour au Centre Vidéotron pour y affronter l'Armada de Blainville-Boisbriand. L'avant-match vous sera présenté dès 18h45. Rempart contre Armada, ce vendredi 19h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Réveilleurs and shout, boisé sur le slide, la musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
C'est les élections municipales le 7 novembre, ce qui veut dire que tu as besoin de faire un choix éclairé.
La bonne nouvelle, c'est qu'on a pensé à toi. Ce jeudi, en collaboration avec la CADEL, l'Allier et Impact Campus, on reçoit les candidates et candidats à la mairie de Québec.
C'est des enjeux qui te touchent, des dossiers qui te préoccupent, des réponses à tes questions. Écoute le grand débat étudiant présenté par Chiz 94.3.
Jeudi 21 octobre, à partir de 19h30, en direct de la salle Hydro-Québec à l'Université Laval, en ligne sur chiz.ca et sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Guillaume Bédard qui est avec vous au micro en ce vendredi midi du 21 octobre 2021 pour un fort dans le midi, votre quotidienne d'actualité. Écoutez, aujourd'hui, la grosse nouvelle, le gros enjeu, le cœur, le noyau de notre session d'actualité, ça va définitivement être le débat des chefs qu'il y a eu hier pour les élections municipales à Québec, hier soir sur les ondes de